Les clés secrètes de l'univers. Dominique Desmichel et Michel Galliana Mingo.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Potentiel, la radio qui rapproche les hommes. Vous le savez, nous entrons maintenant dans un autre monde à la fois familier, car c'est le nôtre, et en même temps étrange parce que tout ce qui concerne notre passé, le plus souvent, nous ne le connaissons pas. Si vous nous accompagnez depuis plusieurs semaines, vous suivez cette sorte de feuilleton qui tente de retracer notre histoire depuis l'origine du monde, il y a 13,8 milliards d'années. Ceux qui aiment la musique et le cinéma ont reconnu notre générique. C'est la partition que Stanley Kubrick a utilisée pour l'ouverture de son film L'Odyssée de l'espace, une partition de Richard Strauss, dénommée ainsi par les Zarathoustra. Pour ce voyage, ce long voyage en feuilleton, il nous faut un conteur, un savant, et c'est Michel Galliana qui était un grand éclaireur de nos histoires, de nos origines, et qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « Les clés secrètes de l'univers » et que je vous conseille très fortement. Alors Michel, bonjour.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
Et j'avais un petit peu envie de refaire un tout petit point pour que nos auditeurs ne s'y perdent pas trop. Alors, je m'adresse à vous tous, les auditeurs. Attrapez peut-être un petit bout de papier et puis un stylo et je vous fais un petit résumé quand même très rapide des épisodes précédents. Il y a 4,6, 4,55 peut-être milliards d'années, la Terre se forme. C'est une espèce de vaste soupe avec des poussières, des gaz, et puis plein d'autres choses qui vont se former autour du système solaire. À cette époque-là, il faut dire que notre planète n'a pas d'océan à sa surface, elle n'a pas d'oxygène dans son atmosphère, et c'est important de le dire parce que là où nous en étions arrêtés, la dernière fois avec vous, Michel, nous avions vu une très grande transformation, dont je vous rappelle dans une petite minute. Cette planète, donc il y a 4 et quelques milliards d'années, elle est bombardée de corps célestes, elle est soumise à une très forte activité volcanique, géologique, et elle va progressivement se refroidir, permettant au fond la condensation, j'espère ne pas dire trop de bêtises, vous me corrigez après, Michel, de premiers nuages, en tout cas. Et puis entre 3,8 et 3,5 milliards d'années, vont apparaître les océans et au fond de ces océans, les premières briques de vie avec, on pourrait dire, un premier passager de ces océans que sont les cellules. Quelque part, vous l'aviez bien dit, Michel, près des sources hydrothermales sous-marines, qui sont ces espèces de geysers situés au fond des océans, il y a une espèce de grande soupe où tout est réuni pour fabriquer des molécules, en particulier des molécules précurseurs, on pourrait dire de l'ARN ou de l'ADN, tout le monde a entendu parler un petit peu de ça, elles vont se trouver un petit peu encapsulées et vont apparaître ces premières cyanobactéries. Cyano, ça veut dire bleu, hein, c'est-à-dire c'est un petit peu des algues, on n'est pas très très sûr et je crois que c'est un petit peu discuté pour savoir si c'est de la famille des algues ou des espèces de protocellules, de précellules. En tout cas, ça bouillonne. Et puis, et je n'ai pas envie d'être trop long, il y a environ 2,4 milliards d'années, ça fait déjà 1 milliard d'années que ces cyanobactéries, qui sont des espèces d'usines photosynthétiques, vont bosser et vont surtout dégrader les molécules de CO2, le dioxyde de carbone, celui dont on entend parler beaucoup dans le réchauffement. Elles conservent au fond le carbone et elles rejettent de l'oxygène. Et la dernière fois, vous aviez appelé ça, Michel, dans quelque chose qui, je trouve, est assez saisissant, cette grande catastrophe, ou on pourrait dire, en tout cas, cette grande oxydation. Et le fer qui est présent dans les océans va capturer ce gaz, va former des minéraux, et voilà que cet oxygène, qui par ailleurs, d'ailleurs, est extrêmement, extrêmement toxique pour plein, plein d'espèces qui vivent là, dans cet espace maritime, vont ouvrir cette très grande oxydation, oxydation qui va entraîner la formation de la couche d'ozone en particulier, sous laquelle, au fond, la vie va pouvoir se diversifier. Et comme le vivant s'adapte, de nouvelles espèces de bactéries, d'archéobactéries, on pourrait dire, avec une vie cellulaire, à présent dépendante de l'oxygène, se mettent à prospérer. Bon, chers auditeurs, j'espère que vous avez bien pris des notes. Si vous n'avez pas tout suivi, c'est simple, vous revenez à tous les épisodes, vous les écrivez avec une ardoise, un papier, votre ordinateur, vous allez mettre tout ça dans la tête et après vous allez être presque aussi savant que moi, évidemment moins que Michel, mais quand même, vous en saurez un tout petit peu plus et ça, c'est quand même passionnant. Michel, j'ai trop parlé, c'est à vous.
C'est toujours bon de rappeler l'histoire parce que c'est une histoire merveilleuse. En fait, on est émerveillé par chaque étape parce que chaque étape paraît plus improbable que la précédente et pourtant elle se fait. Alors, elle se fait, tout ça a duré 3,8 milliards d'années, hein. Donc effectivement, nous voyons ça de très loin et nous sommes surpris de ce qui s'est passé, mais il y a eu aussi beaucoup de temps pour que ça se produise. Oui. Alors, nous étions restés la dernière fois sur une mutation qui s'est produite après cette fameuse catastrophe de l'oxygène, c'est-à-dire le fait que d'un seul coup, la Terre est devenue oxydante à cause des bactéries, à cause de leur production d'oxygène. Eh bien, cette catastrophe de l'oxygène a eu un effet bénéfique parce qu'elle a fait naître des bactéries d'abord très différentes, qui fonctionnent avec un métabolisme totalement nouveau, c'est-à-dire qu'elles ont transformé de poison à opportunité, cet oxygène qui au départ les tuait. Et de là est né un métabolisme beaucoup plus performant, qui est le métabolisme actuel des êtres vivants. Et grâce à cette transformation chimique, là, c'était la dernière étape dont nous avions parlé, est née la cellule eucaryote. Ouais. La cellule eucaryote, je le répète, c'est beaucoup plus gros qu'une bactérie, c'est 15 000 fois plus gros, et c'est beaucoup plus complexe. La cellule eucaryote possède des organes assez complexes, et je vous rappelle que cette cellule eucaryote, c'est celle qui constitue votre corps, c'est celle qui constitue celui de tous les animaux, celui de tous les végétaux et les champignons. L'ensemble des êtres végétaux ou animaux qui sont multicellulaires, sont faits de cette fameuse cellule eucaryote.
Alors voilà, on est entre...
pour le rappel de la dernier épisode.
Et on est entre 1,6 et 2 milliards d'années à peu près. Hein.
Oui, alors là nous arrivons à une période qui est assez mal définie, qu'on situe en général à 800 millions d'années dans le passé. Et nous arrivons aux premiers êtres multicellulaires, c'est-à-dire, ouais, pour la première fois, les cellules eucaryotes, hein, ces cellules qui vivaient autonomes, hein, chacune dans son coin, commencent à se lier entre elles et à fabriquer un être qui les dépasse, et à devenir finalement de simples pions dans un objet beaucoup plus grand.
Oui.
Alors, il y a une analogie bactérienne à cela. Vous qui êtes médecin, vous avez certainement été confronté à cela, Dominique. C'est qu'il y a des colonies de bactéries qui, lorsqu'elles ne trouvent plus à se nourrir, se mettent ensemble dans une gelée, une espèce de gelée. Elle forme une espèce d'arborescence bizarre et elle se transforme de façon à survivre sans nourriture et protégée en étant chacune collée aux autres. Ça forme une espèce de gelée et c'est une sorte d'animal multicellulaire, très très embryonnaire, mais ça n'en est pas vraiment un parce que cet être se dissout aussi vite qu'il s'est créé, dès que la nourriture devient abondante. À ce moment-là, les bactéries renaissent, elles quittent ce milieu-là où elles s'étaient réfugiées collectivement, et donc on ne peut pas vraiment parler d'un être qui se réplique, c'est plutôt un état passager dans lequel elles peuvent se mettre. Alors pourquoi je vous disais qu'en tant que médecin, vous avez été confronté, c'est que ces espèces de gelées de bactéries, quand il s'agit de microbes embêtants, eh bien, elles se collent dans les appareils, dans les instruments de chirurgie, c'est très difficile de les nettoyer. Je suis sûr que, Dominique, vous avez été confronté à cela. C'est un des problèmes des médecins, n'est-ce pas ?
En tout cas, pour tous les appareils qu'on utilise et qui sont censés rentrer dans le corps, soit dans la bouche, dans l'estomac, dans le côlon, par exemple, en effet, c'est très, très important que ces appareils soient extrêmement, extrêmement bien désinfectés pour ne pas risquer d'apporter des bactéries qui seraient potentiellement pathogènes lors d'une exploration qu'on dit endoscopique. Il y a des protocoles de stérilisation qui sont d'ailleurs extrêmement, extrêmement rigoureux.
Alors là, nous allons au véritable être multicellulaire. Je vous dis, on le situe il y a peut-être 800 millions d'années. En tout cas, la première trace que nous ayons, c'est un fossile qui date de 560 millions d'années, qui s'appelle Dinkinsonia, parce qu'il a dû être découvert par un monsieur Dinkinson.
Ouais.
Et à quoi ressemble ce fossile ? Il est très bien conservé, vous pouvez regarder les photos sur Internet, Dinkinsonia avec un K. Eh bien, il ressemble à une feuille. Imaginez une feuille d'être, vous voyez ? Et cette feuille forme une crêpe plate qui est plaquée au fond des mers. Et cette crêpe est capable de se déplacer parce que dans la face du dessous, elle a des petits cils, comme on trouve sur certaines bactéries d'ailleurs. Et ces petits cils lui permettent d'avancer. Alors en avançant, elle arrive à capter des nutriments, des aliments sur le sol. Et quand elle en capte sous sa face interne, sa face inférieure, eh bien, elle peut les digérer. Elle pratique une digestion interne, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'estomac, mais c'est en faisant une petite protubérance qu'elle peut avoir une cavité, si vous voulez, entre le sous-sol, le sol et elle. Et c'est dans cette cavité qu'elle digère ses aliments. Donc c'est très très simple, il existe encore ce genre d'animal aujourd'hui et ils n'ont que deux types de cellules, un type de cellule pour la face antérieure qui sert à avancer et qui sert à digérer et un autre type de cellule pour la face extérieure. Vous voyez, c'est extrêmement simple et c'est un véritable être multicellulaire parce qu'il est capable de se répliquer. On n'est plus du tout dans le schéma des bactéries qui se collaient ensemble. Là, c'est un être qui est capable de faire des petits. Et ça, c'est le grand mystère de comment un être ainsi a pu être capable de s'auto-répliquer. J'aime bien souvent faire une analogie. Un être vivant, c'est finalement une machine. Hein. Un être vivant consomme de l'énergie et puis restitue de la chaleur et c'est une machine, comme imaginez une machine à vapeur, une locomotive par exemple. Et alors j'aime bien dire, le passage à l'être multicellulaire, c'est tout de même quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est une locomotive qui serait capable de fabriquer une autre locomotive. Étonnant.
Michel, je vous arrête là. Vous savez qu'on est tenu par le temps, comme on est à la radio, et que voilà, nous avons pris nos 15 minutes. Donc, je vous remercie, je salue tous nos auditeurs, et je vous dis à tous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la suite de cette alchimie tout à fait extraordinaire, et nous allons arriver dans une petite période qui me semble s'appelle le Cambrien. On va y revenir la semaine prochaine. Au revoir à tous.